vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà de gauche.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture, légende et super-héros. Pour le retour des tables rondes, on a voulu lancer un nouveau format. Après le Franken Player et les paris, place désormais au 11 de légende. Le but de cette série est simple, déterminer l'équipe des meilleurs joueurs de l'histoire d'un club, celle qui regroupe ses légendes et ses héros. Et parce que la vie n'est pas toujours bien faite, il a fallu qu'on inaugure ce nouveau format par le PSG. Comme si la mauvaise saison de l'OM ne suffisait pas à me mettre dans le mal. Enfin bref. Alors pour passer cette petite heure à composer ce 11 ultime parisien dans les meilleures conditions, je me suis entouré de deux supporters très très sympas et très très calés sur le club. Tout d'abord mon célèbre acolyte Boris Radosic. Comment ça va Boris?
Je suis ravi de te retrouver. Abdallah, par contre, tu n'as pas fait de progrès sur la prononciation de mon nom de famille.
Ça fait longtemps que tu n'es pas venu, c'est
donc
pour ça.
Donc du coup, tu peux l'écorcher à souhait.
Exactement, c'est quoi? C'est Radosic?
Il n'y a pas de Z. Hein. Radojčić, si tu peux le dire comme ça. C'est
Radojčić.
Bah, tu vois, voilà.
Boris Radojčić.
Pourtant, voilà. On a eu des Serbes hein, au PSG. Il y en a même eu à Marseille. Tu devrais t'entraîner un peu quand même. Ouais, il y en a même un actuellement qui ressemble un peu.
Oui.
Je pense que je suis aussi bon que lui d'ailleurs.
Mais il ne joue jamais. Il joue jamais.
Bah, voilà, ça, je pourrais jouer à Marseille presque en ce moment.
Et l'autre invité, c'est Jonathan Candan, un habitué de banquettes et des tables rondes et aussi un très grand fan du PSG. Comment ça va, John?
Bah écoute, ça va, je suis très très content de parler de ce 11 de légende parce que c'est d'actualité.
Ah voilà, le PSG c'est ton club, c'est le cœur, c'est le sang. Moi je me rappelle d'une phrase que tu m'avais dit, je crois que c'était en off, et on disait entre la France et le PSG, tu avais dit mon sang il est bleu et rouge.
Ah, exactement.
Voilà, c'est ça m'avait marqué et on se retrouve un peu là-dedans dans cette culture club supérieure à, même si on adore l'équipe de France, soyons clairs là-dessus, mais le club reste quand même un peu au-dessus.
Mon
toi.
Pays, c'est Paris.
Voilà, exactement. Alors, juste pour expliquer le fonctionnement de cet épisode, on va chacun donner nos joueurs, en commençant par les défenseurs, puis les milieux de terrain, et ensuite les attaquants. Et pour chaque position, il faudra se mettre d'accord sur le quatuor, donc pour les défenseurs, ou le trio ultime, sachant qu'on part sur un 4-3-3. Et à la fin, logiquement, on aura l'équipe de rêve du PSG. Mais juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, très brièvement, chacun, j'aimerais que vous disiez aux auditeurs et à moi aussi, comment vous êtes devenu supporter de ce club. Qu'est-ce qui a mal tourné dans votre vie à un moment? C'est ça que je veux savoir. John?
Moi, il n'y a rien qui a mal tourné. Je considère vraiment... Alors après, c'est un jugement très méchant pour ceux qui ont grandi à Paris et qui sont fans d'un autre club. J'ai du mal à comprendre en fait, le concept de grandir à un endroit et d'aimer un autre club.
Tu parles de moi, là, c'est ça là.
Entre autres.
Entre autres, ok.
Entre autres, je trouve ça hyper opportuniste. C'est comme tous ces fans de l'Olympique Lyonnais parce qu'il y a eu leur victoire, là, leur 7 séries dans les années 2000. Mm-hmm. Il y a des gamins, aujourd'hui, ils ont 30 ans, ils sont fans de l'OL, ils habitent à Paris, ils sont tristes.
On n'en connaît pas trop quand même. Hein. Paris, ils se cachent un peu. Hein.
Ils se cachent. Après, j'en vois aussi qui retournent leur veste maintenant.
J'en connais aussi.
Non, mais j'ai grandi ici. Qu'est-ce que tu racontes?
Moi, j'en ai connu à la fac un des supporters de l'OM qui aujourd'hui supporte le PSG. Hein.
J'en ai connu au lycée, ouais.
Je pourrais balancer des blases, mais ce serait pas bien.
Ouais. Et toi, du coup, Boris, comment t'es devenu supporter du PSG?
Alors moi, j'ai un souvenir très net. Hein. C'est 91. C'est la défaite de l'Olympique de Marseille en finale de Ligue des Champions. tu me demandes, je te réponds.
Bah ouais, mais là, attends, ça n'a rien à voir.
Parce que tu as introduit, tu vois, avec mon nom de famille. Donc, moi, je suis d'origine serbe. L'Étoile Rouge de Belgrade gagne la Ligue des Champions en 91. Et en 91, j'ai 8 ans. À 8 ans, tu es un peu, tu kiffes un petit peu, tu vois, tu peux t'enthousiasmer pour l'équipe qui gagne. Et ce soir-là, mon père a ouvert le champagne et il a dit tiens, ton club de merde. En parlant de l'Olympique de Marseille, parce que bon, en vrai, j'avais 8 ans, je supportais pas vraiment. Sur ce match-là, j'étais un peu pour Marseille. Il dit tiens, ton club de merde. Et je crois que je l'ai regardé. Je dis plus jamais, je suis pour. Il a fait ça tombe bien, je supporte le PSG en plus de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et du coup, je crois que l'année d'après, j'avais 9 piges. Il m'emmenait au parc et j'ai compris. J'ai compris ce que c'était la vraie ferveur rouge et bleu.
Super commentaire. Juste, John, je crois que tu l'as pas précisé. Comment t'es devenu supporter du PSG?
Écoute, comment, j'en sais rien. Moi, c'est devenu naturellement.
Ouais. Ouais.
J'ai pas eu le choix. Je me suis pas laissé le choix. Et puis, quand tu vois après, mon père m'a emmené très très tôt au parc. Mm-hmm. Il devait avoir 6-7 ans les premières fois. Donc, tu tombes amoureux. Le Parc des Princes, tu rentres une... Enfin, si c'est le stade dans lequel tu rentres pour la première fois, c'est fini.
Ouais, okay. Moi, je rejoins ce truc-là parce que j'ai des souvenirs assez, tu vois, indélébiles des premières fois au parc, de matchs. Limite, je me rappelle mieux de matchs où j'étais tout gamin que des matchs après où j'étais abonné. Tu vois, c'est où t'en consommes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, les premiers, même si tu gagnes pas, même si ça reste des matchs un peu, des fois un peu moisis sur le contenu, bah, c'est ceux qui m'ont marqué le plus. Et je crois que, tu vois, monter les marches pour aller en virage, mon premier match, c'était à Auteuil, où tu montes les marches et tu commences à apercevoir le terrain quand tu arrives entre Auteuil rouge et Auteuil bleu. Et je vois juste le terrain, tu vois, à travers les tribunes. Et tu vois, c'est le vert comme ça qui sort de la pelouse. Ah, tu vois, ça, c'est un truc, c'est indélébile, c'est gravé, quoi.
Je suis d'accord avec toi, la première fois que tu vas au stade, dans le stade de ton club, et que tu aperçois pour la première fois la pelouse, enfin, même déjà, quand tu arrives devant le stade, tu vois l'enceinte et tout, tu vois les gens qui rentrent, ça te met déjà en condition, et je pense que ça permet aussi de tomber amoureux, effectivement, du club qui joue là-bas, c'est la première fois que tu vas au stade. Et donc, bref, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai parlé tout à l'heure des défenseurs, des milieux et des attaquants, mais j'oublie un poste, celui de gardien de but. La base, alors, pour vous, qui est le gardien de but ultime du PSG ? John ?
Ouais, écoute, il y a une réponse qui vient forcément. Bernard Lama.
Bah, j'ai l'impression qu'il va faire l'unanimité. On va aller très vite là-dessus. Boris,
ouais,
toi aussi ?
Ouais, sans qu'il ait encore parlé, je souriais déjà en le regardant. Parce que ouais. Bernard Lama, c'est un peu... Après, moi, j'ai de l'affection pour un autre mec. Mais si, de toute façon, là, c'est vite tranché, c'est Bernard Lama pour moi.
C'est Bernard Lama que j'ai mis aussi, donc c'est parfait. Ouais.
Parce que Bernard Lama, pour tout, pour son attitude, il avait un espèce de calme, un truc qui... Et puis, la sérénité, des prises de balles. C'est pas un mec qui boxe, c'est pas un mec qui relâche les ballons. Il allait chercher... il avait une détente. Et puis, c'est cette capacité à... Tu vois, se désarticuler pour aller chercher les ballons, des réflexes sur sa ligne, enfin, avec même le jeu au pied, c'est un des premiers gardiens. Tu vois, après, il y a eu Barthez. Bon, au niveau de la génération, c'est la même, mais c'est d'abord Lama qui a émergé avant que Fabien Barthez explose au plus haut niveau. Et Bernard Lama, déjà, montrait sa capacité. Ah, il a pris des buts en voulant dribbler des joueurs, des trucs comme ça, mais il faisait déjà des piquets par-dessus les attaquants. C'était déjà un gardien complet, en plus d'être spectaculaire. Donc, Bernard Lama. Hein.
En tant que supporter parisien, comment vous l'avez vécu, le fait que voilà, Barthez lui soit passé devant dans la hiérarchie des gardiens en équipe de France ? Est-ce que ça vous a fait un peu mal ? Je sais que moi, j'ai des potes marseillais qui militent toujours pour que Mandanda, peut-être moins maintenant, mais avant, pour que Mandanda soit numéro 1 en équipe de France, au détriment de Lloris. Comment vous l'avez vécu, la relation, le duel Lama-Barthez ?
Après, c'était compliqué, parce qu'en équipe de France, tu avais quand même une atmosphère autour des joueurs parisiens et des joueurs marseillais.
Ouais, au milieu des années 90, ouais, c'était...
Ouais, je pense que la complémentarité de Barthez avec certains joueurs en défense,
Laurent Blanc et De Saï notamment. Hein.
C'était beaucoup plus simple.
Mm-hmm. Qu'il a joué, tu vois, De Saï, il gagne la Ligue des Champions ensemble. Enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a des trucs où tu sais que l'osmose, elle doit se faire un peu différemment. Après, Bernard Lama, il paye aussi 6 mois de suspension avant la Coupe du Monde. Donc, il y a un truc. Il était titulaire à l'Euro et puis il est suspendu pour usage de stupéfiants. Et je crois que ça lui a un peu coûté sa place aussi, en plus de son caractère où c'était peut-être pas, ça passait pas forcément hyper bien avec le reste de l'équipe de France. Mais il avait fait un super Euro en 96 où il sort un péno contre les Pays-Bas en quart. Enfin. Il aurait pu peut-être faire mieux en équipe de France. Bon, après, ça ne m'a pas choqué parce que Barthez a tellement été un très grand gardien en équipe de France. Il a été chercher la Coupe du Monde, l'Euro derrière. Tu ne peux pas dire grand-chose de Fabien Barthez non plus. Quoi. Bon, enfin,
okay.
Le débat.
Top.
Mais, ah ouais, donc je voulais en placer une pour Jérôme Alonso. alors, pas parce qu'il n'était pas ni aussi serein, ni aussi bon que Bernard Lama, mais juste pour. Tu vois, c'est un 11 de héros. Mm-hmm. Et Jérôme Alonso, il n'était pas régulier, mais il a réussi des exploits qui en ont fait un héros. Et je pensais notamment à un match de Coupe de France contre l'OM. Où
je m'en rappelle, en 2002, c'est ça, je crois.
Ouais, je sais plus. En tout cas, toujours est-il que
séance de tir au but,
c'est en 2002 et ça finit à 7-6 et il arrête 3 pénaux dans la séance de tir au but. Et il avait un côté un peu héroïque, avec un style pas du tout académique, mais voilà. Et il avait déjà arrêté un pénau dans le match. Donc il arrête 4 pénalties dans le même match. Ouais.
Je me rappelle du retour au collège le lendemain, très compliqué. C'est ça dont je me rappelle.
En plus, c'était une période où le PSG battait pas trop Marseille. Donc, on a eu des périodes de disette qui duraient assez longtemps. Là, maintenant, on se gargarise assez facilement de gagner contre Marseille. Mais avant le Grand 8, on gagnait pas souvent.
Ouais, effectivement. Alonso, Moi, c'est un gardien que j'aimais bien, malgré ce match-là, mais c'est un gardien que j'aimais bien au PSG. Je le trouvais, il m'apparaissait sympathique, en fait, tout simplement.
Ah, on a eu plein de gardiens nuls, mais sympathiques. On en a eu plein. Hein. Letizy, Dominique Casagrande, Vincent Fernandez, Christophe Revault qui testait les ballons avant les matchs. Et puis, je me rappelle d'une interview dans l'équipe où il dit, le matin de Bayern-PSG, en Ligue des Champions, il dit « Ouais, j'ai testé les nouveaux ballons. Bon, ils flottent un peu, mais nanana. » Mec, première frappe de 30 mètres, il échappe la balle, il prend la balle, finit dans les buts, on prend 5-1 à Munich. Non, c'était pas, il avait un maillot orange fluo, je m'en rappellerai toute ma vie de ce match.
Et personne n'a pensé à Poulaïdel.
On a dit héros, on n'a pas dit zéro.
On n'a pas dit super facile. Vilain, c'est ça.
Ah ouais.
Très bien,
c'est quand même fantastique. Hein. À Poulaïdel, il est mythique.
Ah, il est grave mythique.
À plein d'égards.
Ah, il est mythique pour plein de choses. C'est... incroyable.
Comment il se retrouve gardien du PSG en vrai?
Je ne sais pas. Je me rappelle
plus. Je crois qu'il devait être dans le top 3 des plus mauvais gardiens du championnat à cette époque-là. Comment le PSG, quand même. Enfin, on n'a pas toujours été toujours en haut de l'affiche, mais même quand on était qu'on finissait 14-15e, on avait quand même des joueurs où on se disait, putain, en fait, c'est le collectif qui ne marche pas, mais individuellement, il y a des bons mecs. Mais là, comment tu arrives à avoir Apoulaïdel? En France, il n'y avait personne d'autre.
Je sais pas. Je sais, comment il est arrivé d'ailleurs au PSG, je sais pas en fait.
Ce Camerounais arménien.
On fera un épisode spécial sur les flops, le 11 flops du PSG. On pourra le faire pour d'autres clubs aussi.
Faire deux équipes, je pense.
Alors maintenant, place à la défense. Donc on va citer les quatre, la ligne de quatre. Donc les deux latéraux et les défenseurs centraux. Tiens, Boris, on va commencer avec toi.
Sur lequel du coup?
La défense, les centraux et les latéraux.
Là, on commence par les centraux.
Vas-y, centraux direct.
Non, sinon, les latéraux, ça peut être plus vite fait. Hein. Je sais pas, c'est toi qui décides.
Non, mais on commence par les centraux.
Les centraux. Ouf. Ça dépend si on parle avec le cœur ou si on parle. Parce qu'avec le cœur, je peux dire des trucs, tu vois, comment on rationalise ou pas. Attends, c'est très, très, très dur. Hein. Je m'en suis noté 5 ou 6, hein, franchement.
Ah ouais.
Tu vois, donc s'il faut en garder que 2, je sais que ça va être compliqué, mais. Je vais partir sur les coups de cœur et pas forcément ceux que je garderai, mais des mecs. Mmh. Tu veux en dire un truc. Je vais commencer par Eric Rabessandratana.
Ok.
Pour le cœur, parce que je pense qu'il doit être réhabilité, Eric Rabessandratana, parce que il a été injustement qualifié de fautif sur un penalty en 98.
Ou 99,
17, 18. Non, avec Ravanelli qui fait la plus belle supercherie de l'histoire des supercheries. Avec une simulation quand même qui était assez
légendaire,
extraordinaire,
légendaire.
Et Rabessandratana, je pense que il en a morflé de ce truc-là. Et c'était un bon mec. En plus, je crois qu'il a toujours été exemplaire avec le PSG. Donc c'est un mec que j'aime bien dans l'absolu. Mais voilà, je voulais le réhabiliter parce qu'il a. Et je veux redire ici, il a pas fait faute. Eric, si tu m'écoutes, je sais que t'as pas fait faute. Je sais que l'arbitre, il a fait un clin d'œil. Je l'ai vu moi aussi.
Et du coup, ton deuxième central.
Mon deuxième central, j'aurais pu dire Talal, mais ça c'était pour la blague. Parce que j'aurais dit Bruno Ngoti pour le but contre le Rapide de Vienne. Parce que tu vois, si tu dis pas Bruno Ngoti, ça veut dire qu'on n'a pas la victoire en Coupe d'Europe. Un peu compliqué, mais non, je vais dire Gabi Heinze.
Ok. Ah merde, j'ai écrit une Gauthier. Ok, Heinze.
Gabi Heinze. Malgré toutes les polémiques qui s'en suivront par la suite, si je ne suis pas anachronique et que je considère le kiff de l'époque, je dis Gabi Heinze.
Malgré son retour en France, c'est pour ça à l'OM, où il est champion de France.
C'est pour ça que
2010.
Je ne suis pas anachronique. Okay. J'ai tellement kiffé Gabi Heinze que Gabi Heinze.
Ok, ça se tient. John, t'as qui toi?
Moi, Capitaro. Je vais mettre Thiago Silva direct pour diverses raisons, mais même encore récemment sur ses sorties médiatiques, quand il parle du club, c'est toujours avec amour, respect, c'est un...
Monstro, ok.
Monstro, et en second, je mettrais Ricardo, parce que j'aimerais bien voir...
Ricardo Gomez.
J'aimerais bien voir ce que ça peut donner une paire brésilienne...
Autre que Silva Marquinhos ou ouais, Silva David Luiz.
Marquinhos, maintenant, je le vois comme
milieu,
un 6.
Ouais. Ouais.
C'est... Du coup, ouais, Thiago Silva et Ricardo.
Ok. Bah, là, juste pour dire, on va avoir un gros problème parce que moi, j'ai deux centraux qui ne sont absolument pas les mêmes que vous. Moi, j'ai mis Bruno Ngoti aussi parce que c'est le buteur en Coupe d'Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Paris peut se targuer d'avoir une Coupe d'Europe. C'est grâce à lui. Et j'ai mis aussi Antoine Kombouaré.
Pour le but contre le Real.
Exactement, pour son coup de tête magnifique. Donc, j'ai mis ces deux-là. Donc là, on se retrouve avec
six
joueurs.
Kombouaré n'était pas souvent titulaire. Hein. Surtout à cette époque-là. Et je crois que, enfin, tu vois, quand il contre le Real, je ne sais même pas s'il commence le match.
Je ne crois pas, je crois qu'il rentre.
Il me semble qu'il rentre, qu'il remplace, parce que c'était, la paire, c'était Ricardo Le Guen. Et après, c'est devenu Ricardo Alain Roche quand Le Guen était monté au milieu de terrain. Quand Ricardo est parti, Le Guen est redescendu. Mmh. Enfin bref, Comboiré, il ne jouait pas énormément.
Moi, je l'ai mis là pour le côté héros. Mais après, vous avez une connaissance du club beaucoup plus grande que moi. Moi, je suis prêt à l'enlever.
On doit décider maintenant ?
Ouais.
J'aime bien Eric Rebesson Ratana, mais moi j'avais mis Thiago Silva sur mon papier, il était dans ma liste quand même. Donc Thiago Silva, je le garde, ne serait-ce que pour son but contre Chelsea, et puis pour le truc où on dit qu'il est arrivé à Paris, qu'il n'avait pas envie de venir, maintenant aujourd'hui j'ai l'impression que le club de sa carrière c'est le PSG, et le Milan s'est effacé. Aussi, quoi.
Exactement, donc on peut garder Thiago Silva, ça en fait un. Moi, pour le deuxième.
J'ai envie de militer pour Gabi Ainsa, mais...
On peut.
Moi, j'avoue, j'ai envie de laisser Ngoti parce que.
Tu veux qu'il soit à l'OM, Gabi Ainsa.
Il sera à l'OM. Quand on va faire l'épisode sur l'OM, t'inquiète même pas.
Il était meilleur au PSG qu'à l'OM. Hein.
Mais juste à Grinta, à l'OM, ça suffit, ouais. Mais moi, j'ai envie. Si vous gardez Ainsa, très bien, mais je m'exprimerai.
Est-ce qu'on peut le mettre sur le banc, Ngoti? On peut faire un banc de touche?
On pourra faire un banc de touche après. Mais bon, si on est à 2-1, donc. Ainsa, ça te va, John?
Ah, moi, ça me va, Ainsa.
Ok, allez. Silva, Ainsa, c'est parfait. Très bien, Ngoti, on va le mettre sur le banc. Du coup, pour les latéraux, qui on a, qui t'as, John, toi?
Alors, en latéral, moi, j'avais mis Armand à gauche et Mendy à droite.
Ok.
Passion Armand, parce que, parce que voilà, c'est un mec qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds au PSG et qui a réussi à faire quoi, 2 ou 3 saisons post-arrivée des Qataris. Et ensuite, Mendy...
Il en fait quoi, 6 ou 7, 8? Ouais. Un truc comme ça en tout. Hein. Il arrive en 2004. Donc même plus, hein.
De Nantes.
Ouais, même plus. Je crois qu'il frôle les 10 ans.
Il frôle les 10 ans parce qu'il arrive en 2004 avec Rotten. Et on récupère les Nantais, il y a Jean-Hugues Atéba aussi.
Pardon d'avoir rigolé. Désolé. Et Yepes aussi, non, il vient pas en même temps.
Il y a Mario Yepes, bien sûr. Mario Yepes qu'on aurait pu mettre dans les centraux, Super Mario, avec ses tacles glissés légendaires et sa chevelure. Hein.
Ouais, Armand, j'y ai pas pensé.
John, t'as un petit côté Yepes, un peu, je trouve, dans la barbe, là.
C'est vrai. Pas sur les cheveux.
Ah, là, ça, c'est sûr. Là, c'est plutôt l'inverse.
On peut pas tout avoir.
Toi, t'as pris qui, Boris, en latéral?
Latéral gauche, j'avais Bagarre. Bon, j'aurais presque mis Maxwell, mais je vais pas le mettre. Et je vais mettre Juan Pablo Sorin.
Ok.
Invincible Juan Pablo Sorin. 26 matchs sans défaite avec le Paris Saint-Germain. Toute une saison. Et une qualif au Vélodrome avec un but de la tête où il récupère le ballon dans son couloir gauche à 20 mètres des buts. Et il finit en marquant de la tête à la 89e, 10e, même peut-être les arrêts de jeu.
Je sais plus.
Non, en tout cas, Juan Pablo Sorin, qui reste pas pour une sombre histoire de contrat où, à l'époque où les joueurs, ça arrive encore un peu aujourd'hui, mais un peu moins, étaient partagés entre. Ils appartenaient à 5 sociétés différentes.
Oui,
et du coup, il retourne Villarreal.
C'est ça, ouais.
Il va à Villarreal l'année d'après, alors qu'il voulait rester au PSG, que tout le monde voulait qu'il reste, mais il n'y a personne qui se met d'accord au niveau de ses agents ou de ses possesseurs, en tout cas, je ne sais pas comment dire. Et il rentre en Argentine, il ne sait pas ce qu'il va foutre et il se retrouve à Villarreal 2 mois après. Je crois qu'il finit à Cruzeiro finalement, ce qui fait que 6 mois à Villarreal. Donc, carrière un peu moise hein, pour lui, alors qu'il y avait des histoires avec l'équipe d'Argentine, mais Juan Pablo Sorin.
Très excellent joueur. Excellent
joueur. Il me faisait kiffer la grinta souvenir, qu'il avait, puis techniquement au-dessus du lot.
Et du coup, en latéral droit?
Alors là, plus compliqué, j'avais pas pensé à Nanar Mendy, mais. Parce que tu vois, ça me plaît bien, Bernard Mendy. Je m'étais noté quoi? Je m'étais noté Laurent Fournier, qui pouvait jouer à droite et à gauche. Je m'étais noté quand même Christophe Jallet, qui était arrivé de Lorient un peu sur un malentendu et finalement qui a fait sa saison.
Ouais,
et puis qui marque contre Lyon dans un match où on gagne 2-0. On n'avait pas battu Lyon depuis une éternité. Ça aurait même pu être presque Jimmy Algerino.
C'est peut-être le poste le plus faible au PSG.
Bah, exactement, c'est vrai qu'en préparant l'épisode, c'est le poste sur lequel j'ai vraiment calé.
Je crois qu'on n'a pas de référence, hein, parce qu'on a eu des mecs vraiment moisis quand même. Hein.
Et c'est exactement ce qu'on m'a sauvé, parce que tu m'avais sorti en préparant l'épisode, c'est qu'il n'y a pas de référence. Mon collègue qui m'avait aidé aussi sur ce poste-là m'a dit qu'il n'y a pas trop de référence. Il m'a sorti genre 10 noms comme ça de mecs qui ont joué à ce poste-là.
Quand on a eu Daniel Kennedy, même Cristobal qui avait 36 ans. À l'époque, Pochettino, Ainsa, c'est Cristobal qui jouait à droite. Un peu complexe. Jimmy Algerino, il avait fait pas mal de saisons. Bernard Mendy, en fait, c'était le renouveau. Quand il arrive de Caen, c'est ça. Il a ce truc où on se dit, ah, enfin, on a un mec qui va faire l'affaire. Il joue à gauche, d'ailleurs, au début. Ouais. Et puis après, il passe à droite. Quand on met le 7-2 contre Rosenborg, il est monstrueux, il joue à gauche, etc. C'est là, en 2000-2001, un truc comme ça. Et bonne pioche, Bernard Mendy.
On veut dire Mendy, alors.
Ouais, j'ai envie de dire Mendy.
Allez, Mendy,
parce
c'est
parti. Parce qu'on n'a pas vraiment de référence, mais il a ce côté, en plus, Titi parisien, maintenant, il est avec les féminines. C'est l'adjoint des Chouafny, c'est gros mec, grosse culture PSG.
C'est vrai. Moi, c'est le joueur que j'ai mis aussi à droite, Bernard Mendy. Pour moi, c'était une évidence.
Après, puis il a fumé Roberto Carlos.
Ouais, ça, tout le monde se rappelle de cette action-là. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez sur YouTube, Mendy, Roberto Carlos, ça suffit. Vous trouverez les images qu'il faut. Après, pour le poste de latéral gauche, moi, je suis désolé, mais pour moi, la référence à ce poste, pour moi, c'est Maxwell au PSG. Pour tout ce qu'il a apporté au club et même ce qu'il continue d'apporter. Bon, après, c'est pas sur le domaine sportif, sur le terrain, mais c'est un mec, je pensais pas qu'il s'investirait autant au PSG et que c'est un club qui marquerait autant de son empreinte. Enfin, il était excellent dans son couloir gauche, il marquait des buts, il défendait. Et pour moi, c'est la référence à ce poste au PSG. Voilà, moi, j'ai mis Maxwell. Bon, là, il y a bagarre entre Maxwell, Armand et Sorine. Faut trancher. Qui vous prenez ? Moi, je garde Maxwell, je peux pas prendre. Armand, c'est mort. Sorine, il y a peut-être bagarre.
Moi, je mettrais Sorine.
Sorine ? Ah ouais, donc là, les mecs voulaient me faire. Donc vas-y. Ok, Sorine, très bien.
Ouais, moi, j'attendais de voir ce que Johnny disait, parce qu'en vrai, j'aurais pu dire Maxwell s'il avait dit Maxwell, mais je vais rester sur Sorine.
Si vous voulez, on met Maxwell. Hein.
Mais... Non, mais parce que Sorine, moi, j'ai eu tellement de passion. Alors, tu sais, c'est des fois ce truc. Pour Sorine, c'est un peu comme dans les relations amoureuses où tu as un truc un peu passionnel qui est complètement irrationnel et insensé, où je l'ai aimé d'amour, mais vraiment, hein, je l'ai vraiment aimé d'amour, Juan Pablo Sorine.
Il y a des joueurs comme ça.
Et comme il est
passé,
qu'il a fait qu'une année, tu peux pas savoir s'il aurait pu se planter la saison suivante. J'en sais rien, il a fait une année extraordinaire. Du coup, je reste sur cette impression de fantastique de Juan Pablo Sorine. Et ouais, Maxwell tu te maries avec. Enfin, tu vois, tu fais ta vie avec Juan Pablo Sorine.
C'est la passion, quoi.
Tu pars en week-end avec lui et puis voilà.
C'est l'amour de vacances.
Coquin, cochon et en même temps, tu vois, tout se passe avec lui.
Très bien. Bah, c'est parfait. Juste pour récapituler, du coup, on a une défense dans les cages, Bernard Lama. Arrière droit, Bernard Mendy. Ça fait deux Bernard. Ensuite, à gauche, on a Juan Pablo Sorine, c'est ça, Juan Pablo.
Ouais.
Et une charnière, Thiago Silva, Gabi Enze, sud-américaine. Pas mal, ça de la gueule, hein. C'est pas mal. C'est
alors,
pas
on a
mal.
Un chien de la casse et un mec un peu plus dans l'anticipation. Là, je crois
non, c'est pas, ça a de la gueule.
La romantique.
Ouais, je crois qu'affût, je vais gagner. je vais détrôner les mecs.
C'est pas mal. On va voir ce que ça donne au milieu de terrain. Du coup, on part sur un milieu à 3. Vous le faites comme vous voulez. Hein, c'est soit 2-1 ou 1-2. C'est comme vous voulez.
Je
ou même
les
3 à plat.
C'est le plus compliqué. Alors là, ça va, moi, tout va être chamboulé dans mon organisation.
Je vous donne mes 3 milieux. Comme ça, peut-être ça va. Moi, j'ai mis Verratti en pointe basse. Parce que le mec est arrivé très jeune, de Pescara, on ne l'attendait pas. Il est arrivé parmi les stars. Il est arrivé un peu dans la première vague des gros joueurs, des gros montants. Ce n'était pas l'un des plus gros montants en plus. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui, son hygiène de vie, etc., etc., c'est un mec qui est juste monstrueux. Il est juste trop fort. C'est incroyable. Je ne suis pas un grand fan du joueur pour plein de raisons, mais je ne peux pas nier qu'en termes de talent, c'est un des plus beaux joueurs que j'ai pu voir jouer au PSG, à ce poste-là en tout cas. Donc du coup, j'ai mis Verratti. Et ensuite, devant lui, une paire un peu d'esthète, un peu le canal un peu historique du PSG. Deux époques différentes, Susic et Rai. Du coup, que j'ai mis pour faire un petit milieu un peu technique. Voilà, ça manie le ballon un petit peu. Et puis aussi, honorer un peu les trois grosses époques, j'ai envie de dire, du PSG. C'est 80, 90 et aujourd'hui. Donc voilà, Verratti, Rai, Susic. Qui t'as choisi, toi, John ?
Écoute, je suis emmerdé parce qu'il y a des noms qui me viennent en tête. T'as un Luis Fernandez que tu pourrais, tu pourrais placer sur ton 11. Alors après, on peut le mettre en coach. Ça nous arrange si on doit choisir un coach.
Moi, je ne le choisis pas.
Un coach. mais ce que je veux dire, c'est qu'il a marqué l'histoire du club. Après, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas ? Je suis emmerdé parce qu'il y a Daleb que j'aimerais bien mettre, il y a Matuidi qui a marqué l'histoire du club. Donc là, j'avoue qu'il va falloir qu'on vote parce que je suis un peu emmerdé. En tout cas, sur ces milieux défensifs, c'est dur.
C'est dur ?
Ouais.
Ouais. Est-ce que tu veux
Verratti, je valide.
Verratti, tu valides ?
Verratti,
tu le mets ?
Sûr. Ok. Ouais, sûr. Après, on verra ce que dit Boris, hein, mais Verratti, je le mets sûr. Après, si on doit en choisir deux autres...
Moi, j'ai l'impression que je vais acheter un appart, les mecs, parce que là, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Est-ce que je mets mon oseille ? Est-ce que je casse le PEL ? Je ne sais pas.
Ouais.
Très, 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 très compliqué parce que tu vois, même là, Verratti, je le surkiffe. Mmh. Mais j'ai du mal à être, tu vois, à parler avec un peu de raison. Là, parce que le problème, c'est que le PSG qui a fait vibrer mon cœur, c'est un PSG où j'étais un peu plus jeune et j'ai du mal à me. J'ai du mal à intellectualiser la chose. J'ai du mal à me dire, est-ce que j'ai envie de... Parce que Verratti, tu vois, genre, je le kiffe, mais avec des yeux d'adulte. C'est-à-dire que je peux expliquer pourquoi, qu'est-ce que j'aime dans son jeu et pourquoi je l'aime, mais de manière assez modérée. Ouais, y a moins d'âme, enfin, y a de l'amour dans ma voix, mais il y a moins de passion. Donc, il faut que j'arrive à trouver où est-ce que je mets le curseur. Parce que tu vois, Rai, je crois que j'ai pleuré à PSG Monaco pour son dernier match. Je suis à Auteuil, il vient, il pleure devant la tribune, il jette son maillot... je peux pas ne pas mettre Rai, tu vois. J'ai chanté, tu vois. Il y avait un truc sur Rai, sur les chants de supporters cette semaine là. Sur il faudrait une chanson pour Mbappé, et je sais plus, je commentais sur un, je crois que c'était sur Instagram, sur un truc du PSG, je sais plus lequel. Bref, où je disais, on a plus cette culture des chants de joueurs où on inventait vraiment des chansons. Et cette chanson sur Rai, moi j'avais l'impression de l'avoir chantée. Je peux la chanter encore aujourd'hui. Je vais pas vous faire l'affront de chanter. Je chante très mal. Non. Mais on enfin, Rai, donc du coup, je mets Rai. Ça,
okay.
C'est sûr.
Ok, je mets Rai. C'est bien.
Sa fête, là, c'est en plus un truc un peu culturel parce que c'est l'idole de mon père. Mais je vais pas le mettre parce que je vais mettre avec un truc complètement irrationnel, JJ Okocha, qui a été très irrégulier dans sa carrière au PSG, mais il m'a tellement fait
c'est
kiffer.
Ça, c'est ce que c'est le côté. Ça n'a pas été un joueur hyper régulier.
Ah non, il est.
Mais il avait ce côté un peu spectaculaire.
Il est très irrégulier. Il prend pas de titre. Je crois que c'est une période où on gagne rien, il me semble. Je suis pas sûr qu'il ait gagné un titre avec le PSG. Donc, je vais le mettre sur le banc, JJ Okocha. Je vais pas le mettre sur le terrain. Je suis en train de me déballonner là tout seul.
C'est dur, hein.
C'est très très dur. Je vais mettre Blaise Matuidi.
Allez, Matuidi, ok.
C'est mon deuxième. Et je vais mettre.
Alors.
Je vais mettre Valdo.
Valdo ?
Ouais, je vais mettre Valdo.
Ok. Très bien. John, ça t'a permis un peu d'avancer ?
Rai, sûr.
Rai, ok.
Capitaine Rai, forcément, mais pour plein de raisons, pareil, hein, le joueur en lui-même, et puis enfin, son passage au PSG, les larmes de son dernier match, les buts importants qu'il nous met, le fait qu'il a enfin, la première saison
le en triplé contre Bucarest, les finales en Coupe de la Ligue contre Lens, il nous donne des titres alors qu'on en gagnait, on avait cette période un peu compliquée.
Après, le troisième, ouais, ça joue pour moi entre Susic et Valdo, mais en essayant de penser à une complémentarité, c'est difficile.
Ouais, parce que moi, j'ai fait n'impe sur la complémentarité. Parce qu'en vrai, la Blaise Matuidi, c'est pas un mec qui va poser le jeu, tu vois. Sinon, j'aurais dit Thiago Motta ou Verratti, mais quoi, tu vois, c'est là où Verratti, bah, je rejoins quand même.
Après, on part du principe que cette équipe n'est pas forcément la plus équilibrée.
On a envie de kiffer un peu, de se dire que ça peut fonctionner.
Ok.
Moi, je veux bien échanger Verratti contre Matuidi. Non, toi, t'avais pas dit Matuidi, t'avais dit Verratti.
J'avais dit Verratti, ouais.
Toi, t'avais dit Verratti.
J'avais dit Verratti aussi.
Ouais, bah Verratti, ok.
T'enlèves Matuidi alors ?
Ouais, j'enlève. Okay. Verratti Rai,
mais ils nous en font un troisième.
Ils en manquent un troisième.
Ils nous font un troisième. Bah, ça fait, après, ça peut être. Parce qu'on a, un autre mec qui distribue et en même temps qui est capable de marquer des buts.
Et qui d'autre ? Est-ce qu'il y a un. Par exemple, dans l'époque actuelle, Qatari, est-ce qu'un joueur comme Thiago Motta, par exemple.
Ah, j'ai kiffé Thiago Motta, moi. Mais bon, après,
ça peut rentrer en compte.
Après, ça veut dire que tu joues à 2-6 et j'ai pas envie de mettre Verratti Motta.
C'est attendu.
Ouais, ça me fait. Et puis, en plus, je sais pas, je trouve que c'est un manque de respect pour l'histoire de mon club de se contenter de regarder à partir de 2012. On a eu des joueurs assez extraordinaires pour pas s'en passer. Tu vois, je disais au coach, il m'a fait rêver. Donc, tu vois, si on a un banc de touche, je veux bien le mettre sur le banc.
Branko Boskovic.
Bah. Écoute, il a mis un doublé à Marseille qui a fait que
on a motocrol, mais oui, je vois.
Donc puis surtout, il arrive un peu de nulle part.
Hein,
il remplace Akanyakin qui devait signer.
Akanyakin,
Il est resté deux jours parce qu'il passe pas la visite médicale et c'est pour ça qu'on prend Boskovic. Mais
ça a sorti des noms là,
Il a fait non, mais il est resté deux jours.
Incroyable,
le Suisse Akanyakin.
Ouais, ça, le Suisse.
Soit Lilodzi, quoi. Mais bon, bref.
Effectivement, waouh, ça a sorti des noms là. J'ai l'impression de retourner 15 ans.
Non, on aurait pu dire des Laurent Robert, tu vois, des mecs qui m'ont fait kiffer comme ça, ou Ali Benarbia, tu vois, à une certaine époque. où on avait une équipe solide, quoi. Tu vois, c'était... non, je sais, mais Valdo, c'était pas mal. Mais pour moi, c'est pas Susic, quoi.
OK.
Sa fête, c'est pareil. C'est champion, c'est...
C'est pas mal, hein.
C'est pas mal. C'est quoi, sur Rai, Verratti et...
Là, on est sur Rai, Verratti, de sûr.
Et non, et sa fête.
Et sa fête.
Et sa fête. Ça, c'est moi, c'est mon... j'ai mes trois, c'est sûr.
Ouais,
après,
mais je
trouve que
c'est,
devoir,
c'est et complémentaire et pas mal.
Puis
et
c'est trois époques, t'as raison.
Ouais, ouais, j'aime bien.
On garde ça ?
Ouais, on garde ça.
Ouais, je suis content. Ouais.
Pas de Vincent Guérin.
Je suis content. J'ai fait un sweep-it, comme ils disent en NBA. Donc, on part sur un milieu de terrain plutôt technique, quand même, et qui, je trouve, quand même, a de la gueule. Verratti, Rai et Susic, donc trois époques différentes du PSG, trois gagnants et tout, et trois joueurs emblématiques. Et même si je pense qu'on est d'accord pour dire que Verratti sera un joueur emblématique du PSG à la fin de sa carrière. Et du coup, ça te permet d'avancer.
Tu fais une dédicace à Vikash Dorasso, que tu as eu il n'y a pas longtemps aussi, pour son but contre l'OM.
Bon, on arrête de parler des buts contre l'OM là.
Non, mais c'est bizarre, il y en a souvent en plus.
Hein, non, mais en Ligue 1, il n'y a pas eu que Marseille quand même.
Je retiens que ceux-là, moi.
Il y a Guingamp, il y a Lyon.
On va passer aux attaquants, je vais pouvoir parler des buts contre Marseille.
Non, moi je peux parler de Guignan aussi, ça me va.
Il n'y a pas de joueur de Marseille à Guignan. On aurait dû mettre Sylvain Distin dans les défenseurs de Guignan qui sont passés au PSG après.
Vous savez pourquoi je parle de Guignan. Vous savez très bien pourquoi je parle de Guignan.
Pour taper Sylvain Distin.
Tapez PSG Guignan toujours dans YouTube. Voilà. Ouais.
Tapez Marseille-Sochaux aussi, si vous voulez qu'on fasse des trucs comme ça en finale de coupe.
Sans commentaire. Donc du coup, on parle de l'attaque. Boris, on va rester avec toi.
Ouais.
Quel est ton trio d'attaquants ultime du PSG?
Je vais commencer par Ronaldo de Assis Moreira à gauche.
On parle bien sûr de Ronaldinho
évidemment. Voilà. Donc, il jouait pas assez à ce poste-là au PSG, mais on va le mettre là.
Ok.
Parce qu'il jouait plutôt en soutien de l'attaquant quand il était à Paris.
Ouais, mais.
Mais comme Louis, de toute façon, le faisait pas jouer, ça résume un peu la question. Ça règle la question. Donc, je vais le mettre à gauche en mode barcelonaise.
Ok.
Mais,
propre.
En ailier gauche.
Mm-hmm.
Je vais mettre Pedro Miguel Pauleta en pointe.
Ok.
Désolé pour George Weah, mais il faut faire des choix.
Mmh.
Et à droite, c'est très
dur.
Compliqué parce qu'en fait, avec les joueurs que j'ai là, je pourrais ne. Ou alors je peux jouer. Non, je vais jouer autrement. Je vais jouer avec un mec. Je vais jouer avec Ronaldinho en soutien et je vais jouer à deux pointes.
Ok.
Je change mon milieu. Je change l'animation. Ou alors Ronaldinho en neuf décroché. Je sais pas.
Oui,
non,
oui,
ça,
oui,
ça marche pas vraiment.
On part
mais
avec
bon.
Une base de trois attaquants. Tu les mets comme tu veux. T'inquiète.
Et je vais mettre. Du coup, si j'ai Ronaldinho, Pedro.
Mm-hmm.
Vas-y, c'est chaud.
Bon, moi,
en
je
fait.
Sais très bien qui je mets à droite, mais je le garde pour la fin.
Non, parce que Ginola, il jouait à gauche. Hein. Il jouait à deux en plus. Hein. C'était Ginola, Wea. Tu vois, Wea et Ginola, je les mettrais sur le banc. Putain, c'est le Z, donc je ne sais pas quoi faire.
Zlatan.
Ah ouais, Zlatan, mais je fais pas c'est compliqué parce que finalement, il a été assez peu décisif dans son passage au PSG. Il m'a fait kiffer parce qu'il nous a fait passer dans une sphère un peu de star.
Voilà. Du coup, tu me lances un petit peu. Je ne voulais pas prendre la parole aussitôt, mais. Zlatan, je l'ai mis dans ce trio d'attaquants pour la raison que tu viens de citer. C'est-à-dire que pour moi, c'est le joueur, vraiment c'est le joueur, quand il arrive, qui fait changer de dimension au Paris Saint-Germain.
C'est vrai.
C'est Zlatan qui fait passer le PSG dans la sphère des top clubs européens, au même titre que Chelsea, au même titre que Manchester, que le Bayern, que la Juve et le Barça. Tu vois, pour moi, c'est Zlatan qui apporte ça quand il arrive avec... quand c'est Ancelotti qui le fait venir, et Leonardo d'ailleurs. Donc pour moi, Zlatan, il est obligé d'être là-dedans. C'est celui qui fait changer de dimension au club. C'est peut-être pas la discussion avec les Wea et d'autres joueurs, mais il n'a pas été aussi décisif dans les matchs hyper importants du club. Donc on parle bien sûr de la Ligue des Champions. Mais pour ce qu'il a apporté en changement de dimension au club, pour moi, il est important et surtout, c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Voilà, même si c'est récent, même si c'est que très récent, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Voilà.
Non, mais après, c'est pour ça que je le citais. Mmh. Mais c'est, tu vois, ce truc d'animation aussi. Je fais un 4-3-3 et moi, je peux pas ne pas mettre Pedro Miguel Pauleta en pointe.
Pauleta en pointe, c'est la base.
Je donne mes enfants s'il faut. Bon, j'en ai pas, donc ça
d'ailleurs,
tombe bien.
D'ailleurs, c'est le générique de Banquette à la fin. C'est Pedro Miguel Pauleta, un but qui marque contre
l'Olympique de Marseille. Donc, tu vois, pour au moins ces deux buts contre l'Olympique de Marseille, je transige pas sur Pedro Miguel Pauleta, son lob.
Ça me fait mal de la même année. Ça me fait mal de le dire, c'est mal de le mettre, mais c'est qu'on est obligé, quoi.
Je pense qu'en 2004, il met les deux plus beaux buts qui ont été marqués contre l'Olympique de Marseille, de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc, ce lob sur Barthez, je pense que c'est le plus beau but que Marseille a jamais pris, quoi.
Je vais demander à Charles, l'ingé son, de couper ton micro là. C'est trop. Ouais, John, à toi, on va voir.
Alors, Pauleta, certitude. Ok. Juste pour ce but. Enfin, pas que pour ce but, mais
oui, il a fait
je pense que
chose.
Dans l'histoire du club, c'est peut-être le plus beau but que le PSG ait marqué. Mm-hmm.
Dans un classico, tu veux dire ?
Non, absolu.
Ah ouais ?
Ah ouais. Okay. Je le mets au-dessus de tout, cette patte, je l'ai revu des centaines et des centaines de fois, et à chaque fois...
Moi, je me rappelle avoir... J'ai pas vu le match, je l'ai écouté à la radio, et je me rappelle très bien du commentateur qui disait... Comment il a mis ce but ?
Mais c'est pas Gilardi, d'ailleurs.
Comment, sur Canal, c'était Gilardi. Ouais. Moi, je l'écoutais sur RMC. Et c'était, je ne sais plus qui commentait le match, d'ailleurs. Sûrement. Et qui disait, mais comment 2004. Il fait pour marquer ce but ? Comment il fait ? C'est juste... En plus, ce n'était pas un match à 21h. Je crois que c'était un match le
après-midi,
samedi.
Après-midi,
c'est ça.
C'est un 17h. Ah, moi, j'étais au parc, je me rappelle très bien.
Et je fais, mais c'était juste ouf. C'était juste ouf. Et quand j'ai vu les images après, je fais, OK, effectivement, très, très fort. Très très fort. Là, il n'y a rien à dire.
C'est Mdani qui est dans les buts. Mdani qui est toujours dans les bons coups pour se faire salir. Hein. Parce que entre le but de Ronaldinho au Vel où il lui met la feinte de frappe et il tacle, il sort du terrain comme dans la pub Nike. Là, où le mec il rentre chez lui en taclant.
J'ai revu les images là.
Bah, c'est toujours Mdani. Et là, c'est lui, je crois, qui est sur la ligne qui se fait lober par le ballon au deuxième poteau.
C'est possible. C'est possible. Donc là, Pauleta qui fait l'unanimité. Donc ça, c'est plutôt cool.
Pauleta, je ne mets pas Ronaldinho. Oh,
je ne l'ai pas mis non plus, ouais.
Je ne le mets pas parce que. Pour moi, c'est devenu un joueur du Barça avant d'être un joueur du PSG. Moi, je l'adore.
Je l'ai
mais...
tellement aimé d'amour, Ronaldinho. Tu vois, quand je disais les trucs passionnels...
Pour moi, c'est plus le Barça que le PSG. Moi, Ronaldinho...
Tu vois, j'aime bien quand les joueurs qu'on cite, le gros de leur carrière se fasse chez nous, en tout cas les moments les plus importants. Mm-hmm. Sorin, c'est le cas, finalement. Ouais. Mm-hmm. Ronaldinho...
Après, moi, il m'a tellement fait... Tu vois, les deux classicos la même année où on met deux fois 3-0 et au parc et au retour au Vélodrome où il est énormissime. Et là, tu sens qu'on a un joueur comme on a peut-être jamais eu depuis Georges Weah. Tu vois, au niveau de la qualité intrinsèque, de la puissance qu'il dégage, de la facilité. Et tu te dis, OK, on a un futur ballon d'or. Enfin, et je pense que ça ne nous était pas arrivé depuis tellement longtemps. Moi, il y a ce truc où ça m'a fait vriller, tu vois, sur le côté passionnel.
C'est une petite question comme ça, là, un petit débat que je lance comme ça. Est-ce que c'est le joueur le plus excitant que vous ayez vu jouer au Parc des Princes, enfin sous les couleurs du PSG. Là maintenant, on a des joueurs comme Neymar, où il y a eu des Zlatan, Mbappé aujourd'hui, et même avant, les Rai, tout ça. Mais est-ce que c'est le joueur le plus excitant ? On a cette dimension, on a fait des Franklin Players ici.
C'est quoi ?
On l'a cité comme le joueur le plus spectaculaire, peut-être, qui existait.
Je vais faire mon ancien, mais je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point Neymar, aujourd'hui, c'est un truc extraordinaire de l'avoir. On est un peu habitué au caviar avec le PSG
depuis
plusieurs années. Et tu vois, Ronaldinho, c'est, à l'époque, c'était comme si on avait Neymar, à Bordeaux. Tu vois, on prend Bordeaux dès cette année et tu mets Neymar et tu fais genre, ah ouais, t'as un mec comme... Ronaldinho, à l'époque, c'était ça. Donc, c'était vraiment un joyau et c'était assez, assez ouf de se dire que tu pouvais avoir un mec comme lui, tu vois.
Donc, après, quand tu l'as au PSG, mais tu sais pertinemment qu'il va partir.
Qu'il va partir. C'était notre époque.
Arrive, exactement. Tu savais qu'il allait partir et tu savais pas quel gros club allait le recruter. Bon, ça a été le Barça, ça aurait pu être le Real.
À l'époque, c'était la même. Hein. Mais c'est vrai qu'en plus, pour le coup, avec lui, on ne prend pas de titre non plus. La première saison, c'est vraiment une saison d'acclimatation. Il a du mal avec l'hiver. Il est tout frêle. Enfin, il doit peser 70 kilos tout mouillé. C'est un bébé. Il arrive, c'est Okocha qui a les clés du jeu. Il joue avec Anelka, ils s'entendent bien, mais bon, pas plus que ça. Et là, l'année suivante, il a pris 10 kilos de muscles. Et au Barça, il reprendra encore 5 ou 6. Donc après, il prendra du gras au Milan. Comme ça. Mais on savait pertinemment qu'on ne le garderait pas. De toute façon, on n'avait pas les moyens de garder ce genre de joueur. Comme on n'avait pas les moyens de garder Anelka quand il explose et qu'il part à Arsenal. Enfin, c'est des trucs un peu comme ça.
Ok, très bien. Et donc, du coup, ouais, toi, tu n'as pas mis Ronaldinho, comme tu l'as dit. Mais Pauleta, sûr. Et ensuite ?
Moi, j'ai mis Pauleta. Je mettrais Cavani.
Cavani ?
Du coup, okay. Je le mets à droite.
Ok.
Comme au début, quand il jouait avec Zlatan. Et puis, ça m'arrange pour garder Pedro au centre.
Ouais.
Après, c'est plus sur le... Effectivement, à gauche, tu peux avoir un Ginola. Il y a un petit Oaro, moi, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je sais que je Guillaume, le sors un peu de nulle part, mais...
À ça, complètement.
Mais pour le coup, en fait, c'est des chants dont je me rappelle, tu vois. C'est Armand, Oaro, c'est des mecs que j'ai tellement chanté, que j'ai tellement adoré, parce que c'est le PSG que j'aime bien aussi. Mm. C'est des mecs qui font des coups d'éclat. Ils sont pas toujours au top. Puis Oaro, il a quand même marqué quelques buts contre nos amis...
Lui je me rappelle aussi, d'un 4-2, avec, il était en pointe avec Erdi.
Manque de la tête, ouais. Sur corner. On n'a pas parlé de Jérôme Rotten, mais tu vois, c'était dans cette team-là, quoi.
Ouais, Jérôme Rotten.
C'était notre époque de lose un peu, mais beautiful loser, tu vois.
On gagnait, la lose magnifique.
On perdait avec panache, toujours.
Top. Ouais, donc du coup, tu partirais sur qui, toi?
Je pars sur Paoletta,
Cavani
et Ginola.
Ginola, ok, très bien. Alors,
Moi, il m'en manque toujours un.
Peut-être t'en manque toujours un, donc du coup, Paoletta, ça, on est d'accord. Moi, j'ai mis Zlatan... Je l'ai mis à droite parce qu'il fallait que je le mette quelque part et Paoletta, je ne vois pas sur un côté. Donc, j'ai mis Zlatan là. Je me dis qu'il est tellement fort techniquement qu'il peut se démerder. Et à gauche, je ne sais même pas s'il joue à gauche ou à droite ce joueur-là, mais il fallait que je le mette. Ce n'est pas Ginola, ce n'est pas Rotten, ce n'est pas Rony, c'est Amara. Voilà, Amara Diané. Parce que je pars du principe que si le PSG est là aujourd'hui, le PSG le doit à Amara Diané. Ses buts, il en met deux ou
il en met
son doublé contre Sochaux à la dernière journée qui maintient le PSG en Ligue 1.
C'est le dernier match de Pedro en plus.
Voilà. S'il n'y a pas Amara Diané en 2008, il n'y a pas Zlatan, il n'y a pas Thiago Silva, il n'y a pas tout ça aujourd'hui. Peut-être c'est un peu de la fiction, mais moi je pars de ce principe-là que ce type-là a permis au club de se maintenir en Ligue 1. Et c'est quoi, on parle de 3 ans après, non, 3 ans après, c'est ça, ouais.
Bah 2008, donc 2011-2012.
Ouais, c'est ça.
2011.
Donc, ouais, ça, 3 ans après, les Qataris arrivent et voilà, l'histoire est celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'étais obligé de rendre un peu hommage à ce joueur qui est souvent cité d'ailleurs par les supporters parisiens pour ce fameux doublé, le héros. Il y a souvent des articles qui sont refaits à ce moment-là. Rappelez-vous quand Amara Diané marquait un doublé et sauvait le club. Donc voilà, je voulais placer son nom et le mettre en tant que héros parisien. Voilà, ça me fait beaucoup de mal de dire tous ces mots-là. Je vais aller voir le médecin après.
Moi, je veux bien dire que ce soit un héros pour ce doublé-là, mais tu vois, genre, je ne peux pas le mettre dans mon 11 comme ça. J'ai beaucoup de respect pour Amara Diané. Et je me rappelle de la petite musique du multiplex quand j'entends But à Sochaux, où j'ai mon cœur qui s'arrête parce que je ne sais pas dans quel sens c'est, parce qu'il y a un partout à ce moment-là. On ouvre le score, Endo égalise. Et c'est là, je sais pas, 88e ou 9e. C'est-à-dire que si on prend un but, par contre, on peut descendre. Parce qu'on était hors de la zone relégable. Je crois qu'on est 17e avant la dernière journée. Par contre, si on perd, genre on descend avec les résultats qu'il y avait, etc. Mmh. Et quand t'entends but à Sochaux, et là, je vois Amara Diané dans les bras de Paoletta. Et là, tu fais genre, OK, il y a un truc. Je vois Teddy Richards qui cherche son slip par terre. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et en fait, tu revois le but et c'est un truc où il tacle. C'est n'importe quoi. Il est au premier poteau à droite. Il tacle. La balle, elle roule sous Richards, mais vraiment avec le terrain dégueulasse de Bonal, avec des trous. Donc, du coup, ça fait le ballon fait 3-4 rebonds avant de rentrer dans le but. Et là, tu dis, OK, c'est passé à pas grand-chose.
Juste une petite question comme ça. Qu'est-ce qui est le... En termes de... d'intensité, quand vous vibrez devant un match, qu'est-ce qui est le plus intense? Est-ce que c'est ce match-là pour le maintien de votre club de cœur dans l'élite, ou c'est un match de Ligue des Champions, un match, je ne sais pas moi, n'importe quel match de Ligue des Champions, celui contre Chelsea par exemple, où vous qualifiez à Stamford Bridge? En termes d'intensité, c'est lequel qui compte le plus, qui est plus fort? C'est celui contre Sochaux ou c'est le match retour à Stamford Bridge par exemple?
C'est difficile à dire. Ouais. Sochaux, tu relâches la pression, quoi. T'es tellement mal.
Mais dans le match, pendant le match, celui où on est le plus à cran.
Pour moi, c'est la Ligue des Champions.
Ligue des Champions.
Le truc, c'est qu'après, il y a une espèce de sentiment de plénitude qui va avec la victoire derrière, qui te met dans un mood tellement ultra positif pendant plusieurs heures, tu vois. Je me rappelle, enfin, si on prend l'exemple de Chelsea, j'ai ce truc où tu dors presque pas de la nuit avec l'adrénaline, tellement tu kiffes. Sochaux, je m'en rappelle très bien du coup.
C'est plus le fait d'être soulagé. C'est
ouais,
plus ça.
J'ai regardé le multiplex avec mon daron, le truc se finit, tu fais putain, c'est pas passé loin. Puis t'es content, mais tu vas te coucher. Tu dis c'est pas passé loin, on aurait pu descendre, mais finalement non. Et tu sais, c'est comme si peut-être tu traverses la rue, il y a une voiture, elle pile devant toi, tu fais putain, j'ai failli me faire écraser, mais tu te dis pas non plus, tu sais, genre je vais aller fêter ça ou je sais pas quoi, tu vois, il y a ce truc finalement, tu passes vite à autre chose. Tu sais, c'est tu frôles la mort et puis finalement tu te dis ah bah finalement ça va, bon bah écoutez continuons, ça va très bien. Donc non,
ça marche,
la victoire c'est toujours
Mais j'avoue que les buts en Ligue des Champions, surtout là les dernières saisons, ils sont tous
c'est plus intense.
Ah ouais,
ok, très bien.
Là, on a la pression en Ligue des Champions mine de rien, donc à chaque fois tout le monde nous prédit soit qu'on va se faire éliminer, soit que ou tout le monde veut qu'on se fasse éliminer. Donc quand on marque, il y a un petit peu un chef, tu vois, qui sort, où tu te dis, il y a l'explosion de joie et en même temps le truc où,
Non, je vois pas de quoi tu parles. Bon, Boris, c'est qui ton ailier droit là?
Ça, c'est dur parce que j'adore Cavani, mais encore une fois, j'ai mon truc de rationalisation et entre l'émotionnel et le. Et j'arrive pas à le mettre sur le terrain, tu vois, si je dois en garder 11. Mmh. Et Dieu sait, tu vois, et peut-être Dieu sait qu'il est peut-être meilleur que Pedro, mais ben, je garderai Pedro pour mille autres raisons, j'en sais rien, je vais pas faire le débat Pedro ou Cavani qui est le meilleur, mais tu vois, s'il faut une pointe, je garde. Du coup, je garde toujours Pedro et Cavani, je le mets pas. Et j'ai presque envie de mettre Neymar, tellement ce genre de joueur m'excite aujourd'hui, tu vois. Neymar. Et je me dis, est-ce que. Tu vois, il a rien prouvé encore aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué de le mettre dans un 11 de légende. Quand on parlait de Thiago Silva tout à l'heure, il a déjà prouvé plein de choses. Mmh. Il a déjà été décisif dans des moments importants, ce qui n'est pas le cas de Neymar. Donc, j'aurais envie de le mettre, mais je ne le mettrai pas. Mmh. Du coup. Je vais mettre Ginola, même, genre, je sais pas. Moi, j'avais mis Ronaldinho à gauche, je vais mettre Ginola à gauche, Ronaldinho à droite et Pedro en pointe.
Ok, alors attends, juste, je note ça. Donc, toi, tu pars sur Ginola à gauche, ok, et Ronny à droite. Très bien, ça marche.
Ouais, il peut jouer partout, de toute façon, Ronaldinho.
Donc, là où on en est, on a Pauleta dans l'axe, ça, c'est acté. On a deux Ginola à gauche, c'est acté. Donc, du coup, il reste le poste d'ailier droit. On a Cavani. Moi, j'ai mis Zlatan. Et on a Rony, il faut trancher.
Bah, Zlatan, il m'a quand même bien fait kiffer. Il a un truc un peu excitant, ce joueur.
Ouais.
Tu vois, là où Cavani, en fait, je le respecte énormément en tant que joueur et en tant que buteur. Tu vois que c'est une machine. Mmh. Mais il me manque ce côté spectaculaire. Tu vois, il a mis des gros buts. Hein. Moi, je vais pas non plus, on va pas faire les mecs où il a pas mis des gros buts. Il a mis de très, 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 très beaux buts. Mais j'ai l'impression que Zlatan, je pourrais en citer 10, des buts extraordinaires. Là où Cavani, j'ai plus en tête des buts un peu de creux-creux, où il s'attraîne, où il s'arrache, il met sa tête. Alors, il est toujours à fond, mais il y a Zlatan, il y a un truc où il est électrique, quoi.
Ouais, ouais.
Après, bon, c'est très perso, hein, mais moi, Zlatan, le but contre l'Angleterre, bon, il joue encore au PSG quand il le marque. Hein, mais
le ciseau, là, c'est ça, ouais,
le but de l'histoire du foot.
Ah ouais?
Ah ouais.
Ok.
Je le mets au-dessus de tout tellement.
T'es à 35 mètres des buts, collé à la ligne de touche et tu mets un ciseau.
Tu te retournes. Enfin, j'ai vu le truc, je me suis dit, mais merde,
c'est impossible.
C'est inhumain. Et comme le but de Pedro, hein, finalement, c'est deux buts qu'ils n'ont rien à voir, mais dans ce qu'ils ont amené, dans ce qu'ils représentent, ils sont tous les deux extraordinaires. Donc je mettrai Zlatan à droite. Là. Plus que Rony, parce que, encore une fois, Rony, énorme joueur, mais je l'associe plus au Barça qu'au PSG.
Moi, pareil, Rony, pour moi, c'est vraiment le Barça. Et
moi, Rony, c'est le PSG, il n'y a pas.
j'allais dire Zlatan, c'est le PSG, mais en fait, non, c'est aussi l'Inter, c'est aussi le Milan. Donc, c'est pas que le PSG. Ouais,
il est quand même resté longtemps au PSG, hein, beaucoup plus longtemps que dans d'autres clubs.
Mm-hmm.
Et c'est vrai qu'il était vu un peu comme un mercenaire en général dans les clubs où il est passé.
Moi, j'étais surpris qu'il reste aussi longtemps
et
au
il
PSG.
Il reste 4 saisons, tu vois, c'est énorme.
Mm, c'est vrai. Donc, du coup, l'attaque qu'on a dans l'axe, Pedro Miguel Pauleta, qui fait le générique de cette émission. Ensuite, on a à gauche David Ginola, le magnifique. Et ensuite, à droite, Zlatan Ibrahimovic, le grand attaquant de l'ère qatari, le premier grand attaquant de l'ère qatari. Donc, ça donne un truc pas mal. Donc, pour récapituler cette équipe, le 11 du PSG all-time, dans les cages, Bernard Lama, une défense composée de droite à gauche, Bernard Mendy, Heinze, Thiago Silva et Juan Pablo Sorin, un milieu hyper technique composé de Verratti, Rai et Susic, et enfin, un trio d'attaquants, Pauleta, Ginola et Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que ça vous va, messieurs?
Je suis pas sûr qu'on soit complémentaire à tous les.
Je sais pas si on gagne.
Ouais, je sais pas si on gagne, mais on se fait kiffer. Là.
Bon, alors, franchement, avec une équipe comme ça, si vous gagnez pas avec une équipe comme ça, c'est compliqué.
Encore une fois, je suis pas sûr que ce soit très complémentaire devant, par exemple, tu vois, sur les profils, mais c'est pas grave.
Ouais.
Hein. Après, on a un banc de touche, on a dit. Hein, parce que... C'était ma feinte. Non, ouais. Mais on avait dit qui sur le banc de touche?
Sur le banc de touche.
On avait dit Ngoti.
Ngoti. Moi, je mets Cavani aussi sur le banc de touche.
Ngoti qui était quand même pas. On le met parce qu'il a mis le but, hein, mais en vrai, c'est pas le meilleur défenseur qu'on ait eu, défenseur centraux. Tu vois, je préférerais mettre Pochettino, Yepes, ou même Alain Roche ou Paul Le Guen, que finalement, qui sont de la même époque que Ngoti.
Moi, je mettrais Ngoti, Ricardo, enfin comme ça.
Ricardo, tu vois.
Ricardo. Mmh. On a mis qui? Valdo aussi. Valdo en milieu de terrain. On attaque Cavani.
On a Daleb, pas oublier. Blaise. Aussi. Je pense qu'on peut rajouter Blaise.
On peut le mettre.
Enfin, un groupe élargi. Là, c'est plus un banc de touche. Mais...
Ouais. Ouais, c'est les 35.
C'est un double banc de touche.
On a eu des grands joueurs hein, quand même, hein, mine de rien. Très grands joueurs.
C'est pour ça que c'est un peu compliqué.
Personne ne dit le contraire. Hein, attention. Mais oui, non, c'est vrai. C'est ça qui est aussi un peu compliqué dans le genre de Garcia, c'est qu'il y a tellement de grands joueurs. C'est la notion de. Est-ce qu'on prend le grand joueur parce qu'il est resté longtemps, celui qui est resté qu'une saison c'est très compliqué.
On dit pas Nico Anelka, mais Nico Anelka, il a été tellement discuté dans l'absolu pour le hors terrain aussi que Nicolas Anelka c'était quand même un très grand attaquant. Je trouve qu'il a, dans l'absolu, on peut
l'associer au PSG plus que d'autres.
Bah parce qu'il a été formé au club quand même. Il y a un truc où il est revenu, il revient, il fait des efforts pour revenir salarial. Il s'embrouille avec Luis aussi. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est pour ça que moi j'ai un. Enfin, je garde pas un bon souvenir de Luis pour les années où il revient, parce qu'on avait en 2000-2001, on a quand même une équipe de tueurs à gages et on n'en fait rien. Il se retrouve avec Ronaldinho, il le fout sur le banc pendant 8 matchs. Tu vois, il y a des trucs où c'était quand même assez complexe. Mais on a eu des joueurs comme Nicolas. Enfin, je reviens sur Nicolas Anelka où ça aurait pu être il aurait pu avoir une autre dimension dans peut-être de meilleures conditions. Après, il y a des moments où il est devenu mûr assez tard dans sa carrière et dans son jeu. Donc, il est peut-être pas au bon moment au PSG aussi.
Effectivement, c'est l'histoire. Hein. C'est ça. Moi, j'adore Nico Anelka. Ça, c'est un de mes joueurs préférés, un des attaquants français préférés all time. D'ailleurs, si tu nous écoutes, t'es le bienvenu dans Banquette. tu peux venir quand tu veux.
Nicolas, on t'aime.
On t'aime, effectivement.
On peut dire tous les gens qu'on aime là, qu'on aimerait bien avoir dans Banquette. Moi, j'aimerais bien que Eric Rabessandratana il vienne. Je te jure. Hein.
Bah, faisons-le venir.
Laurent Fournier, tu vois, c'est des mecs comme ça qui ont marqué l'histoire du PSG, moi, et qui j'aimerais bien.
Ouais, mais moi, j'aimerais bien aussi avoir des mecs qui ont marqué l'histoire de l'homme. Je dis pas que c'est pas bien, mais.
Il y a eu Alou Diarra, tu le.
Ouais, il est resté pas longtemps, Alou Diarra.
Ah, ça y est, tu vois, ça dénigre déjà. On les voit, les supporters marseillais. Ils aiment trop cracher sur leurs joueurs.
Mais non, Alou Diarra, c'est très bien.
Rabé, il est pas resté pas très longtemps, mais on l'a aimé, hein.
Là, bientôt, on aura un joueur qui est resté un enfant du club, qui est venu. On a eu Vikash Dorasso. Voilà, on en a eu plein. Enfin, plein, je ne sais pas trop. Si, on a eu des joueurs de l'OM, je suis fou, Steve Marley, qui est venu, Edouard Cissé aussi. Donc, autant pour moi. Mais c'était lors de la première saison. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour cet épisode.
Merci.
Juste avant de finir, faire un peu l'actu de chacun. Mon Brice, tu interviens dans Banquette de temps en temps. Mais sinon, à part ça, où est-ce qu'on peut... te lire, t'écouter, te voir, que sais-je.
Ah non, on peut pas me voir.
On peut pas te voir.
Non, on peut pas me voir. Heureusement d'ailleurs. ouais, non, moi avec Bros, hein, toujours. Ouais. Donc sur Bros Stories, avec les petits contenus avec les athlètes qu'on produit. Donc rugby, foot. Enfin, je fais un peu de pub pour le rugby parce que quand même, hein, on a des bons clubs en France. Bref, mais. Non, et puis le football, on a sorti un contenu avec Timo et Bakayoko il n'y a pas longtemps.
Ouais.
On est très axé sur le foot féminin, donc je pense que c'est aussi un axe qui va arriver peut-être à Banquette.
Avec la Coupe du Monde qui arrive en France.
7 juin ou 7 juillet, avec une bonne équipe de France. Donc on peut me voir avec Bros. Enfin, on peut me voir, pas moi, encore une fois. Avec Bros, puis toujours avec les copains de Passement de Jambes aussi, de
podcast,
chaque lundi.
Ouais, dans lequel je suis intervenu déjà deux fois, et c'est toujours un très bon moment passé en compagnie de Martin et toute la bande. Super. Et toi, John,
Au niveau actu, moi, c'est côté PSG et Parc des Princes que ça se passe. Avec des nouveaux sujets qui vont arriver au mois de juillet. On va avoir un bel été au Parc des Princes.
Avec une nouvelle recrue, phare.
Écoute, la recrue, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, le stade en lui-même sera mis en avant.
C'est un beau teasing. Juste un petit mot pour finir, pronostic pour la Ligue des Champions, juste comme ça, où est-ce que va finir le PSG? Juste le stade, champion, finale, demi, quart.
Je ne peux pas dire autre chose que la victoire finale.
Champion, ok. Ouais. Boris?
Pareil.
Champion, ok. Moi, je dis demi.
On perdrait contre qui?
Ouah, ça va. ça va dépendre du tirage, mais moi, je vois bien cette année, je vois bien l'Atlético Madrid. L'Atlético de Madrid, je les vois bien. Donc peut-être contre l'Atlético de Madrid de Griezmann. Maintenant qu'il a débloqué son compteur titre.
On verra lequel des deux, du coup, entre Mbappé et Griezmann.
Le meilleur joueur.
Le meilleur joueur français.
Mais en vrai, il y a un truc assez cool qui se passe avec le PSG quand même cette année, sur de résilience. On perd deux joueurs majeurs sur notre équipe. On perd Meunier en plus, on perd Yaïté, et limite on nous promet l'enfer parce qu'on n'a plus personne et on va se faire marcher dessus. Et là tu te dis, est-ce que c'est pas dans ces moments-là que les grandes équipes elles naissent? Et là il y a un truc qui s'est passé.
En tout cas,
moi je parce que je suis toujours optimiste, hein, tous les ans je dis qu'on va gagner, donc c'est pas, je vais pas changer aujourd'hui et dire autre chose. J'aime bien les signes comme ça, j'ai envie d'y croire. Puis okay. La résilience, c'est cool. Donc, victoire finale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, nous sommes le 26 février, je l'ai annoncé.
Très bien, rendez-vous au mois de mai, messieurs. Et encore merci. Et puis, je vous dis à très vite.
Salut Abdallah, à bientôt.
Salut,
Abdallah,
ciao.
Merci beaucoup.
Banquette est une émission de Nouvelles Écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. Montage et mixage signé par Laurie Galigani. Et à la prise de son, Charles De Silia. Merci à Jonathan Candan et Boris Radojcic d'avoir accepté cette invitation. Si vous avez aimé cet épisode, ne soyez pas timide et dites-le nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Sinon, si vous souhaitez témoigner votre amour pour Banquette et nous donner de la force, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça nous ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Banquette où il sera encore une fois question du PSG. Allez, ciao !